La semaine dernière, le pasteur James Woody nous a invités à interpréter l'amour du prochain que nous recommande Jésus comme un regard qui considère l'autre comme supérieur à nous-mêmes. Et puis, aussi comme une espérance à ce que notre prochain puisse s'élever encore et même puisse s'élever grâce un peu à notre aide, à notre action. Cela m'a fait penser à un texte essentiel dans la Bible qui parle de cette question. Ce texte, c'est le sacrifice d'Abraham. Ce texte difficile, ce texte choquant même, il est essentiel à la fois pour les Juifs, qu'il appelle la ligature d'Isaac, pour les chrétiens, bien sûr, qui y voient une préfiguration du salut offert en Jésus-Christ, et même pour les musulmans, même si pour eux c'est Ismaël qui aurait été ainsi presque sacrifié par son père Abraham. Alors ce texte est dur, ce texte est choquant, mais il est très riche, mille fois interprété par les théologiens, par les psychanalystes, par les philosophes et par les artistes aussi. Pour ceux qui visitent le Louvre, par exemple, il y a bien des interprétations de ce sacrifice. Et chacun est évidemment libre d'avoir sa propre interprétation de ce texte. Alors oui, bien des lectures sont possibles de ce texte, mais pour une personne qui a été touchée par la théologie de Jésus-Christ, aussi par l'éthique qu'il propose, il y a des lectures qui ne devraient quand même pas être possibles. Alors je vous propose de commencer par la lecture de ce texte, et puis ensuite nous lirons un passage de l'Évangile de Jésus-Christ, justement. Alors, ce texte du sacrifice d'Abraham, sacrifice que Abraham consent d'une manière épouvantable, je trouve, c'est au chapitre 22 du livre de la Genèse. Dieu, nous dit le texte, mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Il répondit « Me voici ». Dieu lui dit « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en dans le pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, il sella son âne et il prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et il partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et il prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père et lui dit « Mon père ». Abraham répondit « Me voici, mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu, voici le bois, mais où est donc l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu y pourvoira lui-même ». Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit l'autel et il disposa le bois dessus. Alors il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel au-dessus du bois. Puis Abraham étendit la main et il prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et lui dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici ». L'ange lui dit « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais pas de mal, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et il vit par derrière un bélier qui était retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et il l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom d'Adonai Yiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et il lui dit « Je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre te diront béni par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. » Maintenant, je voudrais vous lire dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 15, à partir du verset 9, ce qui est un peu le testament spirituel de Jésus, puisque c'est ce qu'il dit à ses disciples pour résumer quel est vraiment l'essentiel de sa théologie et de ce qu'il nous propose de vivre en quelques mots. Comme le Père m'a aimé, nous dit Jésus-Christ, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qui l'aiment. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et afin que tout ce que vous demandiez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous dis, c'est de vous aimer les uns les autres. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose, pour commencer à méditer sur ces paroles, de chanter dans « Louange et prière », le petit recueil de cantiques, le cantique 289, « Bienheureux qui t'aime ». Ah non, ce n'est pas celui-là, je crois que c'est le 343. 343 que j'avais prévu, j'ai mal mis ma feuille à jour. Donc le 343 dans « Louange et prière », les trois strophes de ce cantique, « Seigneur, accorde-moi d'aimer ». Il faut bien que ta main m'y pousse. 343. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis par ta présence pour nous révéler ton amour et nous unir à ta vie. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne, toute voix contraire à l'évangile de l'amour et de la vie. Permets que nous sachions recevoir ta parole, non seulement l'entendre, mais aussi vraiment la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi l'aimer, non seulement l'apprécier, mais la mettre un peu en pratique. Ouvre par ton esprit nos esprits, nos cœurs, nos vies tout entières à ta bienveillante fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Ce texte célèbre propose une réponse à bien des questions essentielles. Comment aimer notre prochain? Comment le regarder comme supérieur? Comment l'élever plutôt que de le sacrifier? Plutôt que de le tuer, de le faire mourir? Et puis, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce qu'il peut attendre de nous? Et enfin, comment est-ce que nous-mêmes pouvons avancer, progresser, cheminer? Au début de ce texte, Abraham est la figure type d'une certaine réponse à ces trois questions. Une réponse pas si étrange, pas si originale que cela, car elle peut être reconnue dans la façon de vivre, dans la façon d'agir, de penser de bien des personnes de toute religion, malheureusement, mais aussi de tout parti politique et de toute idéologie. Le cheminement d'Abraham au cours de cette saga qui traverse la Genèse, le cheminement d'Abraham nous propose d'évoluer vers un autre type de réponse à ces questions essentielles de l'éthique, de l'idéal et de la foi. Au début, Abraham entend ou croit entendre cet appel « Va et offre ton fils en holocauste ». Comment peut-on imaginer une seconde que Dieu aurait demandé à Abraham une chose aussi insupportable que d'offrir son fils en sacrifice, de commettre lui-même le propre meurtre de son fils? Alors certains pensent que, en fait, Dieu savait qu'il allait retenir la main d'Abraham, qu'il voulait juste faire passer un examen d'obéissance à Abraham. Personnellement, je trouve ça absolument impossible, parce que ce serait une torture morale. Et même pour une bonne cause, c'est épouvantablement cruel, et ce n'est pas pensable, ni de la part de Dieu, ni comme un modèle de choses que nous pourrions nous-mêmes faire à nos proches. D'abord, bien sûr, Dieu n'attend pas que notre foi soit assez grande pour nous bénir, comme s'il fallait passer un examen, réussir un examen pour qu'il nous bénisse. Mais en plus, il n'a pas besoin de nous faire passer des épreuves, des tests, pour savoir quels sont nos attachements et quelles sont nos forces. Alors donc, il me semble tout à fait impossible que Dieu ait demandé à Abraham d'offrir en holocauste son fils, qu'il aime profondément, nous dit le texte. Eh bien donc, Abraham s'est trompé s'il a pensé un jour que Dieu lui demandait de sacrifier son fils. Peut-être que dans sa théologie, oui, il fallait sacrifier une part de sa vie en ce monde pour avoir la bénédiction de Dieu. C'était comme un marchandage un peu. C'est un peu finalement le pari de Pascal. Et c'est ainsi que le comprend, que comprend ce texte Kierkegaard, avec admiration mais aussi avec épouvante. Abraham accepte de sacrifier une part essentielle de son être, de ce qui est limité finalement dans sa vie en ce monde, pour obtenir ce qui est infini, la vie éternelle, Dieu. Mais dans cette saga d'Abraham que nous raconte la Genèse, cette logique n'a absolument pas lieu d'être. Ce n'est pas possible. En effet, la bénédiction que Dieu donne à la fin de ce récit du sacrifice consenti par Abraham, eh bien cette bénédiction, elle était déjà donnée dès le début de la saga d'Abraham, au chapitre 12 de la Genèse, donc 10 chapitres avant ce récit. Et quand Dieu donne sa bénédiction à Abraham, donc au début de cette histoire, au début du chapitre 12, Abraham n'avait encore absolument rien fait pour mériter cette bénédiction, et Dieu ne met absolument ni condition, ni réserve à cette bénédiction. Dieu donne donc sa bénédiction à Abraham, et il lui promet qu'il sera une bénédiction pour son entourage et même pour d'innombrables personnes de toutes les nations. L'infini de la bénédiction de Dieu nous a donc déjà été donné. L'infini de sa présence aimante qui va nous accompagner sur nos routes, même quand elles sont un peu improbables, même quand elles sont pécheresse en train de vouloir sacrifier les autres, l'infini de la présence aimante de Dieu, du salut de Dieu, nous est déjà promis, accordé. Et donc cette logique de la grâce, elle est extraordinairement libérante à mon avis. Nous n'avons rien à prouver ni à Dieu ni aux autres. Et si nous faisons le bien, c'est pour la pure joie de faire le bien. C'est pour la simple joie d'aimer comme nous avons été aimés finalement. C'est ce que nous dit Jésus-Christ dans le passage de l'Évangile selon Jean que je vous ai lu. Abraham s'est donc tout bonnement trompé s'il a pensé un jour que Dieu lui demandait d'offrir son fils en holocauste. Il a peut-être juste imaginé ça, peut-être par goût de l'héroïsme. C'est ce qui peut arriver quand on ne sait pas encore à quel point nous sommes aimés. Et on veut faire nos preuves, on a envie d'avoir l'impression de valoir quelque chose, d'exister avec des actes héroïques. Parfois, le désir de se réaliser peut conduire à se sacrifier et à sacrifier les autres, même les êtres qui nous sont le plus chers. Alors il faut donc une grande prudence avant de penser que Dieu nous demande de faire quelque chose, car il faut arriver à démêler ce qui peut venir de Dieu et puis nos pulsions plus ou moins inconscientes, bonnes ou mauvaises. Mais je crois que l'ordre donné par Dieu à Abraham, selon ce texte, est en fait quelque chose d'excellent. Que cet ordre donne une piste très intéressante pour savoir, oui, comment aimer notre prochain et comment devenir nous-mêmes un peu plus adultes grâce à Dieu. Seulement, Abraham a mal interprété ce que Dieu lui disait. En effet, l'hébreu est une langue un peu rustique qui se prête à de nombreux sens et contresens. Et le mot hébreu « holocauste », c'est un mot très banal qui peut tout autant signifier l'idée de monter un escalier, de gravir une pente ou bien même de s'élever au sens figuré. Et donc cette phrase « va et offre ton fils celui que tu aimes en holocauste », elle pourrait tout à fait être comprise tout aussi bien, être traduite aussi bien en disant « va et fais monter ton fils que tu aimes. Élève-le, aide-le. Bon, ne l'élève pas en fumée, bien sûr, mais aide-le à se développer dans toutes les dimensions de son être. Fais qu'il soit plus haut, plus grand, plus libre. Le message est alors totalement, bien sûr, cohérent avec le Dieu de la bénédiction donné à Abraham, le Dieu de la grâce, et le Dieu que nous révèle Jésus-Christ. Alors, comme nous le disait James la semaine dernière, Dieu nous adresse une vocation, celle d'aimer notre prochain, de l'aider à grandir, à devenir supérieur à ce qu'il était hier, et même peut-être à devenir supérieur à ce que nous sommes nous-mêmes. Si nous faisons nôtre tout ce que nous avons reçu de bon et que nous essayons d'en faire profiter les autres, oui, l'autre pourra même être supérieur à nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qui a empêché Abraham de bien comprendre ce que Dieu lui disait ? Peut-être donc c'était une mauvaise théologie, une pensée que Dieu voudrait des sacrifices pour bénir, mais peut-être que c'est aussi un excès d'individualisme. Abraham était tout entier consacré à bien faire tout ce que Dieu lui disait, tout ce que Dieu lui demanderait. Abraham était tout entier occupé à son propre salut, à son propre cheminement. Abraham sent qu'il doit participer à créer un monde nouveau, un monde meilleur, un monde nouveau par la foi, par la confiance en Dieu. Alors bien sûr, aider une seule petite personne de son entourage à s'élever, ça a pu lui sembler une tâche un peu trop popote pour lui finalement, qui n'entre pas dans son schéma de pensée, ni dans son schéma Israël, si je peux me permettre ce jeu de mots un peu vaseux. Ici donc, Dieu propose à Abraham d'élever son fils. Voilà ce qu'il lui propose. À ce moment-là, le prochain qu'Abraham pourrait élever, c'est tout simplement son fils, ce fils qu'il aime, qu'il a sous les yeux. Alors bien sûr, il y a plus original comme mission, mais c'est par ce fils. C'est par ce fils, par la bénédiction que ce fils transmettra à d'autres, par la bénédiction qui se multipliera ainsi peu à peu, qui se multipliera encore infiniment en Christ. C'est comme ça que le monde change peu à peu. Alors pour Abraham, ça peut sembler un peu bien modeste d'aider seulement une personne, son proche, son plus proche, pour l'aider à s'élever, mais c'est comme ça que le monde va finalement changer, un peu, peu à peu. Abraham n'a donc pas eu à chercher bien loin, le prochain qu'il avait à aider, c'est son fils, mais ce prochain aurait pu être un papou de Nouvelle-Guinée et Abraham aurait dû aller à l'autre bout de l'Afrique. Comme Dieu est le berger de chacun, tout est possible. Tout homme peut être le prochain que nous avons pour vocation d'élever, finalement. Car en effet, en hébreu, notre prochain, par définition, c'est celui qui a le même berger que nous. Or, Dieu est le berger de tout homme, donc tout homme peut être le prochain que nous avons à aimer et à aider à s'élever, finalement. Mais alors, qui aider ? N'importe qui peut être notre prochain, finalement. Qui nous est confié en particulier pour que nous l'aidions, finalement ? Alors, il y a en fait souvent, je crois, le choix. Dieu est à l'écoute de nos idées sur la question, mais il a aussi des suggestions à faire, comme nous le voyons dans ce texte, et il nous ouvre les yeux en nous disant « Telle personne, quand même, tu es bien placée pour faire quelque chose. » En tout cas, si nous nous lançons dans ce projet, ce n'est pas pour acheter la bénédiction de Dieu, ce n'est pas non plus pour la mériter a posteriori, ni pour lui prouver que nous valons quelque chose, ni pour nous prouver à nous-mêmes que nous valons quelque chose, comme le pensait peut-être Abraham, mais comme le dit Jésus, c'est pour la simple joie, et cette joie est complète, d'aimer un petit peu, finalement. Mais en fait, en s'engageant, Abraham progressera lui aussi, comme un bénéfice collatéral peut-être. Il progressera dans sa théologie et dans sa façon d'être. Pourtant, Abraham s'y prend très mal, on le voit dans ce texte. Au lieu d'élever son fils, il le traite comme un paquet, comme à peine plus qu'un objet, il se prépare même à l'anéantir. Et pourtant, la théologie d'Abraham est encore épouvantable, bien sûr. Mais il n'empêche, Abraham est en relation à Dieu et quand même il est en relation avec son prochain. Et Dieu pourra ainsi rectifier le tir, compenser ses manques, et il pourra élever Abraham à la hauteur de la mission qu'il a acceptée, et finalement la bénédiction va passer. L'homme est un être de relation, et c'est en relation avec Dieu et en relation avec son prochain, en relation avec l'un et avec l'autre, que l'homme peut se construire, qu'il peut avancer. C'est en donnant librement à Dieu et à son prochain, en expérimentant ainsi un petit peu la circulation de la grâce, un tant soit peu, en acceptant un don gratuit et en acceptant de donner gratuitement, c'est ainsi que l'on se construit finalement. L'homme ne peut donc pas se construire tout seul. Il ne peut pas se construire par le seul savoir d'une théologie ou d'une éthique. Il ne peut se construire dans la solitude. Mais par sa relation à Dieu, Abraham, bien sûr, apprend beaucoup de choses fondamentales, mais il y a un abîme entre avoir une notion de ce que c'est que l'amour, par exemple, et être capable d'aimer un peu à son tour. Et donc on ne peut pas en vouloir à Abraham de n'avancer que pas à pas dans sa théologie, dans son éthique. C'est ce que nous pouvons espérer de mieux pour nous-mêmes et pour nos proches, pour ceux qui sont autour de nous. C'est peu à peu, au fil des expériences, au fil de notre propre création, que nous pouvons grandir et cheminer. C'est face à Sodome qui court à sa perte qu'Abraham va expérimenter ce que c'est que la miséricorde dans un dialogue entre Dieu et sa propre conscience. Ensuite, dans sa vocation naissante à faire quelque chose pour son fils Isaac, il va pouvoir apprendre de Dieu ce que c'est qu'aimer, ce que c'est que la grâce, ce que c'est que, je dirais, faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et c'est ainsi qu'il va recevoir le don de Dieu et c'est ainsi qu'il va apprendre à donner à un prochain. Peut-être qu'Abraham avait ainsi mal interprété le sens de ce qui lui était demandé et confondant malheureusement élever son fils, faire monter son fils et offrir son fils en holocauste. Mais il y a encore une possibilité, peut-être qu'Abraham a bien compris que Dieu lui demandait d'élever son fils finalement, d'élever son fils vers Dieu, mais qu'Abraham s'y prend de travers. On peut imaginer qu'Abraham voulait à tout prix lui transmettre sa foi, cette confiance en Dieu qu'avait Abraham, confiance qui lui permet de se mettre en route au premier geste de Dieu. Abraham voudrait que son fils soit même encore mieux, qu'il soit parfait. Dans un sens, c'est bien. Jésus veut aussi que nous soyons parfaits, comme son Père céleste est parfait, mais cela n'empêche pas Jésus d'accepter ses disciples comme ils sont finalement, limités et merveilleux à la fois. Alors ses disciples sont voleurs, ils sont prostitués, orgueilleux, violents, arrogants, ils ne comprennent rien, mais ils sont aussi fidèles, émouvants, enthousiastes, confiants. Et Jésus les aimait tels qu'ils étaient, au point de tout donner pour eux. Donc Abraham, il veut élever son fils si haut, le rendre si parfait que cela va presque tuer Isaac. C'est le danger des personnes trop exigeantes avec elles-mêmes et trop exigeantes pour les autres. Abraham, oui, il a un bon idéal à ce moment-là pour Isaac, mais pas assez de patience, pas assez de pragmatisme finalement. Sûr de lui, il amène son fils sans lui dire un mot, Alors ce n'est pas la peine, bien sûr. Il n'y a rien à discuter, Dieu a parlé, donc on le fait sans discuter. Isaac, il suit comme un agneau docile, il pose à peine une question et accepte la réponse mystérieuse de son père. Ensuite, Abraham va encore plus loin, il le ligote. Oui, dans notre pédagogie pour pour nous, nous éduquer nous-mêmes ou pour éduquer peut-être nos proches, les autres. Il peut arriver que nous soyons d'aussi mauvais pédagogues qu'Abraham ce jour-là, à coup d'exigences excessives, à coup de culpabilité, de remords, nous pouvons nous faire un mal fou, nous pouvons nous désespérer et nous pouvons faire beaucoup de mal à ceux qui nous entourent. Alors comment est-ce qu'Abraham aurait dû s'y prendre pour faire monter Isaac, son fils, celui qu'il aime ? Eh bien la voie était toute tracée. Il suffisait à Abraham de suivre la façon de faire de Dieu lui-même. Cette façon de faire que lui-même avait expérimenté, bien sûr, puisqu'il en était le bénéficiaire, de faire pour Isaac ce que Dieu avait déjà fait pour lui, d'aimer comme il avait été aimé par Dieu, nous dit Jésus-Christ. Abraham aurait d'abord pu parler à Isaac, comme Dieu lui parle à lui, Abraham. Il aurait pu l'appeler par son nom, lui dire « Isaac, Isaac ». Comme Dieu l'appelle, lui, Abraham, à plusieurs reprises dans ce texte, et même d'une façon redoublée, pour lui manifester toute sa tendresse, son amour. Abraham aurait pu bénir Isaac, comme Dieu l'avait béni lui-même avant qu'il se mette en route, avant même de voir si Abraham le suivrait. Abraham aurait pu bénir Isaac de bon matin, avant de se mettre en route. Or, dans l'histoire d'Abraham, jamais il ne pense à bénir Isaac. Ce sera sur le tard, directement par Dieu, qu'il sera béni. Quelle tristesse ! Abraham aurait pu faire preuve de patience et l'accompagner pas à pas, lui disant et lui redisant combien Isaac comptait pour lui. Lui dire son amour, puisqu'il en avait de l'amour. Il aurait pu l'aider, le guider pour qu'il puisse devenir une bénédiction à son tour pour les autres, au moins pour une personne, lui faire découvrir à Isaac qu'il avait lui-même aussi un prochain, comme Dieu lui a fait voir à Abraham qu'il avait lui-même un prochain, et que lui faire sentir à son fils qu'il avait de l'ambition, qu'il était digne de grandes choses. Si Abraham avait fait cela, Isaac aurait pu comprendre qu'il était et qu'il serait toujours aimé par Dieu, aimé par son père, même s'il n'était pas parfait, même s'il n'était pas parfaitement docile. Il aurait pu comprendre que même si Dieu a beaucoup d'ambition pour lui, des projets très élevés, il serait aimé même s'il ne faisait pas tout à fait face, même s'il s'y prenait mal. Peut-être alors qu'Isaac aurait eu envie, oui, ce jour-là, de se mettre en route volontairement, librement, joyeusement, à son rythme, pour monter sur la montagne que Dieu lui aurait indiquée. Cette montagne que l'on appelle Moria ne serait plus alors un lieu de dispute ridicule comme ça l'est aujourd'hui pour cette collinette qui est au centre de Jérusalem. Moria ne serait plus un lieu de sacrifice, comme s'il fallait acheter l'amour et la bénédiction de Dieu. Et donc Moria serait autre chose, une autre montagne, comme Abraham en prend conscience à la fin de ce récit. Cette montagne devient Moria, le lieu où l'Éternel pourvoit, le lieu où l'Éternel redouble de grâce, alors même que nous sommes dans le péché. Et ce Moria pourrait être pour lui, selon une autre étymologie que reprend la Bible grecque, le lieu où l'Éternel lui-même nous élève, Marom Yah en hébreu. Oui, que le nom de l'Éternel soit béni, lui qui nous élève au-dessus de tout. Amen.